Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Bien vous fasse. L'année scolaire se termine et certains élèves poussent un grand ouf de soulagement car ils ont vécu un enfer, une année où ils ont été frappés, bousculés, moqués, humiliés, harcelés, intimidés, racketés, une année de souffrance, souvent en silence et parfois dans l'indifférence, par peur des représailles ou d'inquiéter ses proches. Nous essaierons de comprendre comment naissent ces maltraitances physiques et psychologiques à l'école, comment faire en sorte pour que les victimes parle, comment les adultes peuvent les détecter, comment lutter contre ces violences et harcèlements scolaires. Une seule émission ne suffira bien sûr pas à apporter toutes les réponses, mais avant les vacances d'été et avant d'aborder une nouvelle année scolaire, nous vous proposons quelques armes afin que les victimes puissent à nouveau aller à l'école, au collège, au lycée, avec légèreté et insouciance. Précisons que ce matin, nous nous intéressons aux maltraitances entre jeunes. Nous consacrerons une autre émission aux violences qui opposent les élèves au personnel éducatif. Alors que vous soyez parents, élèves ou profs, nous attendons vos témoignages et questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Il était une fois dans le web de Julia Foyce.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Demain, on va te frapper.
Connard.
Gros lard. Hé, PD.
On va te fracasser.
Tu pues.
Tapette.
Dégage.
Bolos.
Connasse.
Puceau.
Sorcière.
Trisomique. Fils de pute.
Sale chienne.
T'as pas d'amis.
Tu sers à rien.
En France, officiellement, 10% des élèves se disent harcelés à l'école. Soit 1 200 000 enfants et adolescents. Un chiffre exorbitant, derrière lequel se cache peut-être votre fille, votre fils, votre sœur, votre petit-fils ou votre élève.
Un extrait du documentaire « Souffre-douleur, il se manifeste » d'Andrea Rawlins-Gaston, diffusé sur France 2 en 2015. Comment lutter, prévenir les violences et harcèlements scolaires? Eh bien, deux invités pour répondre à cette question. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chercheur en psychopédagogie à l'Université de Mons en Belgique et vous êtes co-auteur de « Prévention du harcèlement et violences scolaires » chez The Book. Bonjour Sonia Fertchak.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, experte éclairée de notre émission et vous avez publié l'indispensable encyclopédie des filles chez Grund avec des dessins de Katel Müller. Bruno Humbeck, le monde des enfants et des adolescents n'est bien sûr pas un monde merveilleux, peuplé de guimauves et de bisounours. Il suffit de lire ou de relire certains romans qui mettent en scène la violence enfantine, hein, loin du regard des adultes. Je pense évidemment à Sa Majesté des Mouches de William Golding ou encore à La Guerre des Boutons de Louis Pergaud.
Alors c'est vrai que c'est le propre de tous les groupes humains contraints, qu'ils soient enfants ou adultes d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a en quelque sorte des saisons du harcèlement. Hein. On le sait, dès qu'il y a un groupe humain contraint qui se met en place, on a d'abord une euphorie communautaire. On le voit dans toutes les émissions de télé-réalité. Ils sont copains comme cochons, dès qu'on les met dans un cadre contraint et qu'on leur dit « vous allez devoir rester dedans ». Au début, tout va bien. C'est pour ça qu'en septembre, c'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement. Ça va pas durer, y compris dans le groupe des enseignants. On a les mêmes phénomènes, d'ailleurs, entre eux. Hein. Ce sont les classes comme les enseignants. Si j'interroge les enseignants en début d'année, ils me disent « je crois qu'on a un bon esprit d'équipe et je crois que j'ai une bonne classe ». Et puis ça commence à se gâter à partir de la mi-octobre, délestage progressif des membres. On serait quand même mieux si un tel n'était pas là. Et on commence à bousculer. Ça commence en maternelle déjà. C'est toujours les mêmes qui bousculent les mêmes. Ça prend des formes, je vais dire, identitaires. Plus on évolue avec l'âge, hein, on finit par exclure des jeux. On veut pas jouer avec toi parce que t'es pas beau, parce que t'es roux, parce que tu sens mauvais. On commence à exclure et on va arriver à partir du mois de janvier à la très haute saison du harcèlement, qui est de janvier à la mi-mai, où là, on a des sous-groupes qui sont complètement enquistés, des couples qui sont formés au sein des classes et des enfants complètement désespérés ou des adolescents. Et ça va s'arrêter. J'ai tendance à dire malheureusement, il y aura une nouvelle basse saison. On est en basse saison ici. À partir de la mi-mai, tous ces phénomènes s'arrêtent. Et je dis malheureusement parce que ça introduit une forme de cycle, hein, et le cycle introduit en même temps un schéma répétitif, une forme de fatalisme, ça va recommencer, on le sait que ça crée à ce moment-là, y compris chez les enseignants, ce qu'on appelle l'usure de compassion. C'est-à-dire qu'ils vont recommencer à être confrontés tous les ans au même phénomène, s'ils sont face à une impuissance, pour eux c'est catastrophique.
Sonia Fertchak.
Oui, deux choses, c'est que d'abord, notre société est violente et on leur renvoie ce miroir. Moi je trouve très importante la violence des mots, parce que c'est souvent la violence première, celle par laquelle tout commence. Il faut vraiment, je trouve, en tant qu'éducateur, en tant que parent, faire attention à ça. Et la deuxième chose que je trouve terrible dans la violence, c'est que au-delà des faits, il y a le ressenti des enfants et cette acceptation à un moment qu'ils sont victimes et que c'est comme ça et que c'est la fatalité et qu'ils ne pourront pas s'en sortir.
Oui, c'est ce sentiment d'impuissance qui est d'ailleurs consubstantiel au harcèlement. Il n'y a pas de harcèlement s'il n'y a pas de sentiment d'impuissance. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, on aura bien l'occasion de l'expliquer ce matin, que c'est toujours un phénomène de groupe qui écrase. Ce n'est pas le gentil et le méchant, c'est tout un groupe qui, à un moment donné, va écraser un individu ou lui donner en tout cas le sentiment qu'il est écrasé.
Alors qu'il s'agisse de brimades, de rejets, de menaces, de moqueries, d'injures, de coups, d'insultes, de rumeurs, de mises en quarantaine, de raquettes, d'humiliations, d'agressions... Bruno Beck, la palette est large pour rabaisser l'autre, le dominer, le bannir, le déposséder.
Voilà, c'est vraiment le mot domination. Alors pour expliquer très clairement comment fonctionne le harcèlement, je vais imaginer que je vous bouscule comme ça de manière répétitive, donc intentionnelle, répétitive, et de façon que ça produit un état désagréable. C'est pas du harcèlement. Si je fais ça uniquement, donc je suis juste ce qu'on appelle un emmerdeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, la personne va me le dire et stop, et je vais m'arrêter. Si par contre, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre. Et on se met à sourire. Là, je vais commencer à mettre en scène le harcèlement parce que je mets en scène un dominant, un dominé et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant. C'est pour ça qu'on a affaire à un véritable phénomène de groupe et que le cyberharcèlement, par exemple, va juste augmenter artificiellement le nombre de spectateurs. C'est pour ça qu'il est aussi meurtrier, d'ailleurs.
Sonia Ferchak.
Oui, alors le cyberharcèlement, c'est quelque chose devant lequel les adultes sont assez dépossédés parce que finalement, c'est assez neuf dans notre vie à nous, à l'échelle de notre âge. Et par ailleurs, les jeunes manient ça extrêmement bien, souvent bien plus que nous. Et c'est difficile quand on est parent. Je me souviens, il y a quelques années, quand je commençais à parler des dangers d'Internet, je me suis pris une volée de bois vert parce que je critiquais la modernité. Aujourd'hui, heureusement, tous les parents sont concernés par ça, mais souvent démunis sur ce qu'il faut faire.
Oui, même si je sais que le discours qui viserait à diaboliser, par exemple, les médias sociaux est contre-productif. C'est quelque chose d'intéressant et on ne doit surtout pas donner, et j'espère que l'émission permettra de le faire, donner l'impression qu'on est démunis, parce qu'on sait comment contrôler ces phénomènes.
Oui, alors ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On vit une révolution numérique extraordinaire et c'est un progrès et c'est une source de chance absolument phénoménale. Mais il ne faut pas nier, c'est un Far West Internet. C'est-à-dire qu'il faut y aller armé. Et donc il faut donner des armes aux enfants, leur apprendre et beaucoup, beaucoup, beaucoup dialoguer.
Bruno Humbeck, dans votre ouvrage Prévention du harcèlement et violence scolaire, vous parlez de violence visible et de violence invisible.
Oui, mais effectivement, par exemple, les réseaux sociaux produisent une forme de violence invisible. La moquerie est une forme de violence invisible. C'est elle qui est la plus meurtrière. C'est pour ça qu'on doit pas seulement outiller les enfants. Je crois que c'est un message là qui est très dangereux à entendre pour les parents comme pour les enfants eux-mêmes. C'est pas l'enfant ou l'adolescent qui doit être outillé, ce sont les adultes qui s'en préoccupent. Ça veut dire qu'on doit outiller les écoles. Équiper les écoles, c'est ce qu'on fait en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a plus de 700 écoles actuellement qui sont équipées pour faire face au harcèlement et au cyberharcèlement.
Oui, quand je disais outiller, les équiper, c'était psychologiquement. Bien sûr. C'est apprendre aux enfants à parler, à s'exprimer, à pouvoir dire. Il faut que la parole soit vraie et qu'elle soit fluide dans la famille.
Bonjour Laszlo.
Bonjour.
Tu es stagiaire dans l'émission Grand Bien Vous Fasse. Tu as 15 ans et tu es lycéen en seconde à Aix-en-Provence. Et tu as été harcelé, ça s'est passé au collège, c'est ça ?
Oui, exactement, Ali, ça s'est passé au collège, durant mon année de 4e jusqu'à début 3e, puisque je me suis retrouvé dans la même classe que mon harceleur.
Mmh. C'était une harceleuse en l'occurrence.
Harceleuse, oui, en l'occurrence. Et donc, elle m'a harcelé à cause de mes problèmes d'acné. C'était continuel, donc... Elle pensait pas que
c'était quoi ? C'était des paroles répétées,
oui,
des insultes.
Non, pas forcément des insultes, mais des paroles répétées comme calculette, toutes les insultes commodes quand on a de l'acné. Et donc ça m'a blessé. Et j'ai pas osé en parler pour pas me mettre la classe sur le dos, toute ma classe.
On verra quelle solution tu as mis en œuvre pour que ce harcèlement s'arrête. Mais est-ce que la classe était également, entre guillemets, complice de ce harcèlement ?
Pas forcément, c'était plus un groupe d'amis, 5-6. Mais non, la classe n'était pas forcément complice. Chacun avait son groupe et rester avec son groupe, c'était pas... Non, pas forcément.
Sonia ?
Oui, ce que vous dites, Laszlo, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand vous dites le terme de calculette, c'est que souvent le harceleur cherche à se faire bien voir, évidemment, à faire rire notamment. Et je pense que ça, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec les enfants, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose de drôle au détriment d'autrui, mais ça marche pour les adultes à la télé aussi, hein, dit quelque chose au détriment d'autrui, il faut faire la part des choses. On peut rire et dire qu'on est scandalisé.
Bruno, on verra que dans les outils qu'on met en place, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'une émotion se dit, ne se contredit pas. Si je dis que je suis triste parce qu'on se moque de moi, personne n'a essayé de me faire passer ça pour de l'humour. Mais dans ce que Laszlo dit, il y a un phénomène qui montre bien ce qu'est le harcèlement. Il parle d'un petit groupe d'amis. Et le personnage qui montre le mieux ce qu'est un harceleur, c'est le Dr House. Le Dr House est un harceleur type. Pourtant, quand je parle de lui, notamment à des femmes, elles sourient. Et quand je leur dis « mais vous le trouvez séduisant ?» Elles me disent « oui ». Et si je dis « mais c'est un salaud », elles sourient encore plus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un mâle dominant, il est bourré de testostérone, il a son petit groupe, il casse les autres. Et effectivement, à ce moment-là, il installe son mécanisme de séduction de cette manière-là. Donc on a quelqu'un qui fait rire les autres, un peu comme dans ce que Laszlo explique, et qui prend du pouvoir sur le groupe. Alors, Dr. House peut le faire, pas parce qu'il est humain, parce qu'il est divin. Il est plus fort que la mort, donc il peut se permettre de mettre en scène les défauts humains, comme le faisaient avant lui les dieux grecs. Mais il n'empêche que c'est effectivement un mécanisme qu'on retrouve, bah, des petits Dr. House miniatures, il y en a dans toutes les classes.
Hein. Laszlo, tu restes évidemment avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Bouvier, bienvenue dans l'émission.
Oui, alors j'avais un témoignage de comment un jeune peut passer de victime à bourreau. Enfin, à agresseur. Et donc, la maman de ce jeune garçon qui a été agressé m'a appelée. Et donc, on a essayé de comprendre. Elle n'a pas porté plainte. Elle a essayé de comprendre, en fait, ce qui avait bien pu se passer. Et après avoir vu plein d'autres mamans, j'ai appris que mon fils avait été victime, frappé. En même temps, il était racketté, donc il y avait plein de choses qui disparaissaient dans la maison, les jeux vidéo, il disait qu'il les avait perdus. Et là, dans le petit groupe, pour montrer en fait qu'il pouvait être aussi caïd, le petit groupe lui a demandé de frapper. Et c'était, c'était dramatique de comprendre que, en fait, il est pas belliqueux du tout, c'était un gentil garçon. Comment il avait pu frapper, en fait, un petit camarade qui lui avait absolument rien fait, mais qui était brillant et beaucoup plus jeune, parce qu'il avait sauté des classes. Et ça a été terrible. Donc, on a réuni, nous, nos deux enfants, on a essayé de comprendre. Et j'avais oublié, je ne savais pas la souffrance qu'avait vécu mon fils avant, mais le groupe était, ce petit groupe était terrifiant. Donc ça s'est résolu au collège, il y a eu une réunion avec toute la classe, et puis nous on est venus aussi pour raconter ce qui s'était passé, et que ça devait cesser, donc c'était juste pas possible. Les autres parents n'ont pas voulu venir, ce qui est dommage parce que on aurait souhaité en fait que ceux qui raquettaient, les parents soient présents.
Est-ce que votre fils, Marie, a compris les mécanismes qui l'ont conduit à devenir un bourreau, lui qui a été une victime ?
Alors oui, parce qu'on en a discuté et en plus il s'était tu, donc la souffrance était terrible dans la mesure où il n'était pas aidé. Donc je voyais bien qu'il était un peu plus triste. Bon, mais on ne sait pas. On est très dépourvu à ce moment-là.
Bruno Humbeck.
Alors, il y a deux mécanismes qui expliquent ce changement de comportement d'un enfant. Le premier, c'est une forme de rituel, c'est-à-dire une mise à l'épreuve. Tu vas frapper celui-là et tu feras partie du groupe. Là, c'est le mécanisme qui semble avoir été le plus opérant dans ce cas-ci. Mais le deuxième, qui est très fréquent aussi, c'est le changement de statut. Si vous avez été un dominé, que vous devenez un dominant. On le voit dans les baptêmes d'étudiants, par exemple. Hein, ceux qui souffrent effroyablement des baptêmes d'étudiants, des bizutages, après, deviennent effectivement, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la souffrance les protège. Au contraire, ils sont plus virulents dans leur manière d'agir auprès des autres.
Sonia Ferchak.
Oui, aussi, ce que je pense, ce à quoi il faut être vigilant, c'est que finalement, l'enfant qui devient victime, acquiert une mauvaise image de lui-même. Et cette mauvaise image va l'entraîner à commettre des mauvaises actions. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous disiez, Bruno, c'est que vraiment, il faut toujours partir des émotions de l'enfant, ce qu'il ressent, et ne jamais les mettre en doute.
Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé de Bouvier. Laszlo, toi qui as subi un harcèlement entre la fin de la quatrième et le début de la troisième, est-ce que ça t'a immunisé contre le fait de devenir toi-même un bourreau et un harceleur ou un auteur de violences scolaires?
Oui, parce que ma grand-mère me dit souvent, elle me dit tout le temps même, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc pour moi, c'est devenu inconcevable d'harceler quelqu'un, tout ça parce qu'il était différent de moi. Entre humains, on est tous différents, il ne doit pas y avoir de frontières entre un harceleur et le harcelé, c'est pas normal d'harceler. Pourquoi? Je ne sais pas, mais...
Et ta grand-mère, qui s'appelle Marie, je crois.
Oui, c'est ça,
qui écoute France Inter.
Oui.
Et qu'on salue. Eh bien, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000, poser toutes vos questions, témoigner. 01 45 24 7000. Et par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio. Et c'est réalisé par Claire Destacan.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant, s'assoupit. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère. Le voilà qui s'endort au son des claquetis de la pluie sur les dalles de béton clair. Le voilà qui s'installe, l'homme vieillit contre ce réverbère. Il se taire, de se défaire de ses insomnies. Le voilà qui s'étend aussi loin aujourd'hui, aussi loin, telle une bougie qui désespère. Le voilà qui s'égare dans la cité.
Quelqu'un qui interprétait Réverbère, et nous accueillons Julia Faure. Est-ce qu'il vient d'arriver en studio?
Mais oui, bonjour, est-ce que je vous ai manqué?
Pendant 10 minutes, oui.
J'espère bien. France Inter. Grand bien vous fasse.
10h26, oui, comment lutter efficacement contre le harcèlement et les violences scolaires avec le psychologue Bruno Humbeck, co-auteur de Prévention du harcèlement et violences scolaires, et avec Sonia Fertchak, auteur de l'encyclo des filles. Alors j'aimerais vous délivrer quelques chiffres. Les violences et le harcèlement scolaire toucheraient environ 700 000 élèves et près de 10% des collégiens. Et cet enfer psychologique et physique peut toucher certains au suicide. Vous pouvez contacter le numéro vert Stop Harcèlement 30 20 si vous êtes victime de violences et de harcèlement scolaire ou si vous êtes parent. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour, tu es en 6e.
Oui.
D'où appelles-tu?
J'appelle de chez moi.
De quelle ville? Tu habites où?
Ah, j'habite tout près de La Rochelle, dans une petite commune qui s'appelle Sainte-Soule.
Bon, super. Alors dis-moi Raphaël, tu as appelé, est-ce que tu es victime de harcèlement ou de violences?
Oui. Oui, on peut dire ça. Alors, je crois ma mère, elle m'a dit ça.
Alors, dis-moi, explique-moi un peu comment ça se passe. T'es au collège et qu'est-ce qui te fait dire que tu es peut-être victime d'un harcèlement?
Bah, en fait, souvent, tous les jours, depuis à peu près une semaine, ils disent, par exemple, 5 mètres de sécurité, faut pas s'approcher de lui. Ou des fois, ça c'était il y a plus longtemps, ils disaient, ah, ça pue par ici.
Mais c'est qui? Ils, ce sont les élèves de ta classe?
Oui.
D'accord.
Deux élèves.
Mmh. Et donc, est-ce que le reste de la classe est complice de ces paroles? Est-ce qu'il rit quand il y a ce genre de paroles qui sont proférées contre toi?
Non, ça va. Mais je veux dire, ils font rien, quoi.
Et comment tu le vis, ça, Raphaël?
Bah, Je le vis très mal, mais on a essayé d'arranger ça avec la CPE, mais il y en a un qui a continué. L'autre, il s'est arrêté, mais en fait, il disait à celui qui continue de faire les choses. Il manipulait, en fait. Mmh. C'est pour ça.
D'accord. Bruno Humbeck, sur le cas de Raphaël.
Mais je vois, si j'avais affaire à un petit garçon comme Raphaël, par exemple, la première chose qu'on doit lui dire, c'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci. C'est à nous, adultes, à agir. C'est pas à lui, à essayer de changer quoi que ce soit. Et on doit équiper les écoles. Moi, je le fais régulièrement quand je reçois des enfants victimes de ce type de difficultés ou des adolescents. Et je prends contact avec l'école qui est bienveillante, a priori. Hein. Il faut pas croire qu'une école ne veut pas faire. Parfois, elle se montre agressive parce qu'elle sait pas comment faire. Mais quand on leur dit, voilà les techniques qu'on peut mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle nous des espaces de parole régulés, dans lequel Raphaël pourrait dire pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère ou pourquoi il a peur. Il exprime cette émotion avec la garantie qu'elle ne peut être contredite ou nuancée par personne. Et on demande non pas à l'adulte de trouver des solutions, parce qu'il ne les trouvera pas, mais au groupe. Et là, on va voir tous ceux qui ne bougent pas, dans le cas de Raphaël, c'est-à-dire les spectateurs, mais passifs, qui regardent et qui laissent faire, ceux-là se mettre en mouvement, pas pour des raisons généreuses, hein, parce qu'ils ont peur un jour d'être dans la position du harcelé.
Sonia Fertchak.
Oui, ce qui me frappe dans ce que vous dites, Raphaël, c'est vous dites, ma mère, elle m'a dit ça, que c'était du harcèlement. Et ce qui est terrible quand on est enfant, c'est que on ressent très fort la violence qui nous est infligée, on a mal, mais on ne sait pas, d'une part, poser un nom dessus, et d'autre part, on ne sait même pas que c'est anormal, souvent. Le fait qu'on ne puisse pas la nommer fait qu'on ne se dit pas, mais c'est pas normal, le harcèlement, c'est puni par la loi. Et ça, c'est très, très important de ce point de vue-là, d'équiper les enfants pour qu'eux puissent se dire, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu, ça ressemble à du harcèlement, ce qui m'arrive.
Où est-ce que tu en es, Raphaël, là? Est-ce que ce problème a été réglé par l'école ou par les parents?
En fait, mes parents, mon père a appelé la vie scolaire et il a dit, après la vie scolaire a appelé les parents de la personne en particulier et ils lui ont dit d'arrêter. Donc ils ont appelé que les parents de qu'une seule personne. Donc lui, il a arrêté, mais l'autre personne en question, celle qui manipule, et elle lui avait dit lundi de cette semaine, tu feras quand Raphaël sera tout en haut du mur d'escalade, vu que c'est toi qui l'assures, tu le feras tomber hyper vite pour qu'il ait très très peur.
Bruno, ça c'est typique hein, de ce qui est une intervention bienveillante de nouveau, mais complètement inefficace. Vous créez un effet de stupeur, et puis après, les dominants reprennent le pouvoir, et parfois avec plus de virulence.
Qu'est-ce que vous conseillez en l'espèce dans le cadre
ici, équiper l'école, très clairement, hein, c'est-à-dire leur dire voilà ce qu'il faut faire pour tenir un espace de parole, c'est-à-dire de nouveau protéger l'émotion, protéger la prise de parole. Des espaces de parole dans les écoles, il y en a énormément, mais pour les enfants qui ont envie de parler. Ici, c'est des espaces de parole pour les enfants qui ont besoin de parler.
Sonia Fertchak.
Oui, là aussi, je trouve ce qui est terrifiant dans votre cas, Raphaël, c'est qu'il y a une menace qui est proférée. Si ça se trouve, ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que si ça se trouve, Dieu merci, on ne vous fait pas tomber du mur d'escalade. Mais le fait même que cette menace existe, la toute puissance est exercée et Raphaël se sent impuissant.
En tout cas, Raphaël, je te souhaite beaucoup de courage et sache que le problème ne vient évidemment pas de toi, mais de tes harceleurs. Et voilà, et je te souhaite une bonne fin de saison scolaire. À bientôt, Raphaël. Merci de nous avoir appelés.
Merci beaucoup.
Bruno Humbeck, ce que vient de décrire Raphaël, c'est ce qu'on appelle le bullying. C'est quoi le bullying?
Alors, il y a le bullying.
Ça veut dire quoi, bullying, d'abord?
Le bullying, c'est un terme anglais qui veut dire harcèlement et qui est puisé, en fait, au phénomène des petits veaux qui dans l'abattoir se bousculent pour diluer le stress. Donc, le bullying, c'est qui doit être mis en perspective avec un autre mouvement qu'on appelle le mobbing.
On verra ça tout de suite après.
Parce que ce sont les deux grandes théories du harcèlement. Le bullying, c'est isoler. Donc, le dominant va isoler la victime dans le groupe et puis utiliser le groupe pour écraser, à ce moment-là, le dominé.
Alors, ce sont des petites attaques répétées, des assauts incessants.
Et donc, on ne sait pas identifier. C'est pour ça que le réflexe, par exemple, de faire une enquête, et c'est pour ça d'ailleurs que la définition juridique est partie dans le mur du harcèlement. Si vous faites une enquête, vous allez tomber sur des faits insignifiants et qui, généralement, sont partagés par un grand nombre. Donc, on n'arrive pas à déterminer qui a fait quoi et on finit toujours par cette phrase atroce à entendre pour l'enfant. Il est trop sensible. Où il n'a pas d'humour. Non, il y a une souffrance, elle doit être reconnue, entendue et elle doit activer des solutions.
Alors le bullying, ça se traduit par par exemple des petits pincements, des bousculades, des sobriquets, des surnoms dont on vous affuble, des moqueries, et puis ça peut également être des intimidations.
Voilà, c'est une forme de... et ça augmente généralement, hein, puisque dès que vous sentez que vous avez pris le pouvoir, vous l'augmentez. Le mobbing, c'est quand vous avez un phénomène différent, c'est le groupe qui délègue au dominant la fonction d'écraser le dominé. Ça veut dire que ce sont les deux grandes théories, hein, celle de Lewis et de Picasse, qui sont deux théories qui permettent toutes les deux de comprendre le phénomène et qui supposent, pour l'une comme pour l'autre, d'agir sur le groupe. On ne peut pas agir. Et ça, c'est important de l'entendre par rapport à Raphaël. Le no blame, c'est-à-dire punir le harceleur, ne sert à rien. Il y a deux dérives. Punir le harceleur ou essayer d'arranger ça entre parents. Il y a un film qui le montre très bien, c'est Carnage. Des parents qui essayent de gérer le problème de harcèlement
de l'enfant
et qui finissent par en faire un drame absolu. Parce que dans un premier temps, on veut bien entendre la souffrance de l'autre. Dans un second temps, on va préserver les siens. Et donc, on risque d'intensifier l'agression.
Alors, dans le cas du mobbing, c'est la faiblesse ou la différence visible de la victime qui est attaquée. Différence comme le bégaiement, l'obésité, les difficultés d'apprentissage.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le groupe qui va identifier quelqu'un de plus faible et qui va déléguer à un dominant la fonction, à ce moment-là, par exemple, de sortir les vannes par rapport à l'individu en difficulté.
Ça veut dire quoi, mobbing, d'ailleurs?
Mobbing, c'est une forme de harassement permanent. C'est le même mécanisme. Hein. Le bullying, c'était le harassement, je vais dire, du dominant avec le groupe sur le dominé. Le mobbing, c'est le harassement par le dominant, mais induit par le groupe.
Sonia Fertchak.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important à lire à Raphaël, c'est le problème ne vient pas de toi. Et c'est vrai que un des soucis, c'est qu'on a tous des problèmes. Et que quand on est harcelé, on pense que ces problèmes en sont la cause, que ça vient de soi ou que ça se voit qu'on a un problème. Et on n'est pas en position de se dire, mais ils sont pas bien, ils vont pas bien.
Bonjour Étienne.
Bonjour.
Vous appelez de Meaux, bienvenue dans l'émission.
Oui.
Alors vous avez 18 ans et vous avez été témoin de harcèlement quand vous étiez au collège.
Oui, voilà. Donc en fait, je vous transmets mon expérience lorsque j'étais au collège. En fait, j'ai été témoin plusieurs fois de scènes de harcèlement envers des camarades, parfois que je connaissais bien, parfois que je connaissais moins bien. Et en fait, donc je n'étais ni victime, ni acteur, ni complice, mais en fait spectateur et surtout spectateur inactif. C'est donc quelque chose que je regrette énormément aujourd'hui déjà, à mon âge, à 18 ans. Parce que lorsqu'on est élève au collège, en fait, on est donc préadolescent et on a très souvent un état d'esprit pas assez mature, pas assez mûr. Et je pense pas prévenu aussi, parce que bon voilà, on est un adolescent, on a un état d'esprit pas prévenu. Et du coup, en fait, moi, j'ai deux questions. La première, c'est à quel degré le spectateur inactif de la scène de harcèlement est-il coupable ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'un adulte doit dire à son enfant ou à son adolescent pour le prévenir de ses actes, pour lui faire comprendre à quel moment un tel acte peut être un acte de harcèlement, et aussi comment lui dire que quand il est spectateur, il doit
agir
en fait pour aider l'enfant.
Très bonne question, Étienne.
C'est une question pour moi fondamentale, hein, parce que c'est pas un spectateur, et on l'entend, c'est un spectateur. C'est-à-dire qu'il a agi même en ne faisant rien, et surtout en ne faisant rien. Il faut savoir que le harcèlement produit des effets négatifs sur tout le monde dans une classe, hein, sur les spectateurs, on l'entend, sur le harceleur, et là, il faut que les parents l'entendent aussi. Si on regarde les trajectoires du harceleur, du harcelé et du spectateur, celui pour lequel l'avenir est le plus sombre, c'est le harceleur. Donc lui aussi gagne à ce que dans le groupe, on rectifie ses comportements. Et pour répondre à sa question, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des espaces où on peut parler en toute sécurité. Et il faut savoir que chez l'être humain, l'intelligence collective est reliée à l'intelligence émotionnelle. Donc si une émotion est dite, le collectif va systématiquement trouver des solutions. Et le témoignage en est l'exemple absolu.
Sonia Ferchak.
Je pense qu'il faut aussi verbaliser, pour répondre à Étienne, que surtout quand on est ado, mais même les adultes, il suffit de regarder, avoir la force de s'opposer à un groupe, ça demande une force absolument gigantesque.
Et c'est pour ça qu'il faut que les adultes mettent en place des conditions dans lesquelles la prise de parole et l'émotion sont protégées. C'est des méthodologies, c'est vraiment une urgence. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on le fait en Fédération Annie-Bruxelles, on voit les résultats spectaculaires. On a vraiment des résultats tangibles dans toutes les écoles qui ont été équipées.
C'est une affaire, Jack.
Oui, et alors à quel degré le spectateur est-il coupable, pour répondre à votre question, Étienne, c'est qu'effectivement, cette passivité, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire en fait que si vous étiez le harcelé, personne ne ferait rien. Et c'est ça le phénomène de toute puissance qui se met en place, c'est quand les autres autour se sentent impuissants d'agir. Et c'est ça qui est, au-delà des actes, c'est ça qui est destructeur.
Et puis, dénoncer des violences peut être assimilé à de la délation, Bruno Beck.
Alors c'est pour ça que...
On a peur de passer pour une balance.
Exactement, c'est pour ça que quand on parle d'espace de parole, on est dans du no blame, on ne punira pas, on ne sanctionnera pas, on va juste remettre en mouvement une dynamique de groupe qui permettra à chacun de retrouver sa place. Et tout le monde respire. Je vous assure que quand on met en place des espaces de parole réguliers, hein, puisque c'est comme ça que ça passe dans les écoles, les harceleurs soufflent. Les cyberharceleurs aussi, hein, on est en train de travailler sur un outil qui est ce qu'on appelle un cyberalerte, hein, c'est-à-dire, en gros, c'est un petit bouton rouge qui se met au coin de l'écran. Si vous êtes cyberharcelé, vous appuyez dessus et tout de suite Microsoft fait des copies de l'écran et dit voilà, t'es pas tout seul, ne t'inquiète pas, on va te protéger. Et dans un second temps, si tu veux qu'on agisse, tu appuies sur le bouton vert et là l'école reçoit l'écran. Eh bien, dans les écoles qui sont outillées de cette manière-là, tout le monde vit le surfing sur les espaces numériques comme plus confortable. Pas seulement le harceleur, mais aussi les candidats harceleurs. C'est-à-dire ceux qui, c'est pas seulement ceux qui se sentent protégés, c'est ceux qui risquaient d'agresser parce que tout le monde a envie de surfer tranquille.
Sonia Ferchak.
Oui, une chose terrible dans le cyberharcèlement, c'est que l'école peut dire que ça ne se passe pas à l'école. Mais les conditions, la mise en place des acteurs et des spectateurs est à l'école.
Merci Étienne de nous avoir appelé de mots 01 45 24 7000 pour témoigner et poser toutes vos questions. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Pink Floyd sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43, comment lutter efficacement contre le harcèlement et les violences scolaires avec le psychologue Bruno Humbeck, co-auteur de Prévention du harcèlement et violences scolaires, et avec l'écrivaine Sonia Ferchak, auteur de L'Encyclo des filles. Bonjour Jonathan Destin.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission, je suis ravi de vous accueillir. Je crois que vous avez aujourd'hui 22 ans,
oui.
Jonathan. Et vous avez été depuis la classe de CM2 la victime de moqueries de la part de vos camarades de classe. Vous avez été harcelé, violenté, c'est ça, quand vous habitiez à Marquette-les-Lilles à l'époque?
Oui, oui. Pendant 6 ans, j'ai été harcelé à l'école et racketté.
Alors ça se traduisait comment, ce harcèlement, ces moqueries, quand vous étiez en CM2,
alors,
en 6e?
Donc c'était des moqueries, donc des gros mots sur mon nom de famille, sur mon poids parce que j'étais un petit peu enrobé.
Mmh.
Aussi des tapes, donc ils me tapaient dans les cours de récréation, dans les couloirs, un peu partout, quoi.
Et alors au fil des années, vous avez été la victime de racketteurs?
Voilà, j'étais victime de racket, donc en classe de 4e.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour de février 2011? Vous aviez 16 ans, je crois, à l'époque.
Alors donc, j'étais à bout, j'en avais marre de tout, en fait. Et donc, je me suis immolé par le feu, j'ai été acheter une bouteille d'alcool à brûler. Et donc, j'étais le long du canal et je me suis versé la bouteille d'alcool à brûler sur le torse. Et j'ai allumé avec un briquet, quoi.
Et vous avez été brûlé à 72%?
Voilà, 72% du corps, dont 55 au troisième degré.
Et est-ce que vos parents avaient détecté quelque chose au cours de ces années de harcèlement?
Alors non, parce que en fait, j'en avais jamais parlé et j'ai gardé tout pour moi et je restais toujours seul dans mon coin, en fait.
Mmh. Bruno Humbeck.
Alors ça, c'est une situation typique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, 6,7% des enfants en âge primaire du fondamental parlent du harcèlement qu'ils subissent. Hein, parce que la personne à qui ils en parlent le plus, d'ailleurs, c'est leur ours en peluche ou leur animal de compagnie, parce qu'ils savent que lui ne bougera pas. Très loin derrière, vous avez un copain qui dominait comme eux, parce que bah, il suppose que lui ne fera rien non plus. Très, très loin derrière, un enseignant, parce qu'il a peur de ce que l'enseignant va faire. Il le trouve généralement bienveillant, mais il se dit « je ne suis pas sûr qu'il sait comment agir ». Et encore plus loin derrière, le parent, parce que, bah, comme le dit très bien ici Jonathan, il a peur de faire de la peine à son parent en racontant son chagrin. Et donc forcément d'avoir non seulement son chagrin à supporter, mais aussi la peine qu'il aura constituée en le racontant. Et donc ben, les enfants parlent peu, il faut donc mettre en place des espaces où ils osent parler à quelqu'un qui va leur dire, parce que c'est ça le drame qu'on vient d'entendre, c'est pas celui de la souffrance, c'est celui du désespoir, c'est-à-dire cette souffrance ne s'arrêtera jamais, et pire que tout, la désespérance, quand vous vous adressez à des adultes qui ont l'air tout aussi démunis que vous, des enseignants ou des parents. C'est pour ça, de nouveau, que l'urgence est d'outiller les écoles et de faire en sorte que les parents connaissent les outils dans les écoles pour qu'ils puissent entendre, oui, effectivement, bah, tu souffres, on va agir, on va activer des outils mis en place au sein de l'école pour te sortir de cette situation. Quand le parent tremble dès que l'enfant est en difficulté, on produit à ce moment-là cette forme de désespérance qui conduit alors à ses extrémités.
Jonathan, est-ce que des adultes à l'école ont détecté ce qui t'arrivait ou est-ce que tu as pu en parler à des profs, à des CPE, à des surveillants?
Alors non, pas vraiment. Je n'ai jamais osé en parler. J'avais peur aussi des représailles par rapport aux élèves qui me harcelaient. Et donc non, je n'ai jamais osé en parler.
Sonia Ferchak.
Oui, Jonathan, aussi, ce que je trouve dans votre histoire, c'est que, en fait, ça a commencé très tôt et le processus s'est mis en place par les mots. C'est que vous dites qu'on vous a d'abord raillé sur votre nom de famille, votre légère embonpoint, etc. Et vraiment, je trouve que ça, c'est important. C'est pas grand-chose, c'est d'apprendre aux enfants à parler bien, que les mots ont un sens. Notamment, les ados, je trouve, vont de plus en plus, on pourrait parler de rapports dysfonctionnels aux mots, dans le sens où ils emploient des mots extrêmement orduriers, violents, rabaissants, en disant « mais non, c'est sympa, je la traite ma salope, mais c'est sympa ». Et non, c'est pas sympa, il faut essayer de, je trouve, alors c'est difficile, mais de parler bien devant eux, et surtout de leur faire prendre conscience des niveaux de langage, et d'interdire certains mots à la maison. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'employer, on peut pas leur interdire de les employer entre eux, mais leur faire prendre conscience de l'épaisseur des mots.
Comment allez-vous aujourd'hui, Jonathan? Vous avez 22 ans aujourd'hui, je crois que vous êtes encore en rééducation.
Alors donc là, je suis rentré chez moi, je vais très bien. Donc j'ai eu plusieurs opérations ces dernières années. J'ai été aussi beaucoup en rééducation, pour faire beaucoup de kiné et de rééducation. Quoi. Et donc, mais sinon ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'aurai toujours des opérations plus tard à faire. Mais voilà, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux.
Qu'avez-vous envie de dire aux enfants, aux adolescents harcelés, violentés, Jonathan ?
Alors surtout aux personnes harcelées ou victimes de harcèlement, moi j'ai envie de leur dire que surtout il faut parler à un adulte, il faut absolument parler, il faut pas rester dans son coin, et voilà, il faut parler, hein, il faut parler à un parent, à un proche, à quelqu'un d'entourage, à un professeur, à un CPE, voilà, mais il faut surtout pas rester dans son coin, et voilà.
Sonia Ferchak.
Pour rebondir là-dessus sur ce que disait Bruno, parfois il y a un copain qui est au courant et qui n'ose pas lui non plus parler. Et ça aussi faut prévenir nos enfants, leur dire mais si tu vois quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas rapporté, ça n'est pas lui faire offense que d'aller dire moi je trouve que un tel ou une telle souffre et j'ai l'impression qu'on n'est pas gentil avec lui et que c'est grave.
Jonathan, vous vous êtes investi dans le milieu associatif ou est-ce que vous avez créé une association ? Est-ce que
Alors oui, mes parents ont créé une association donc quand j'étais dans le coma, à l'hôpital donc. Et donc ils ont s'appelle tous Solidaires pour Jonathan, le site web donc. Mmh. Et donc voilà, ça sert à surtout pour m'aider pour mes soins en premier, et donc aussi à faire intervenir ma mère quand elle part dans les écoles pour aider les jeunes et faire de la prévention.
Merci beaucoup Jonathan Destin.
Merci,
vous avez publié il y a quelques années votre témoignage chez Ixo Documents et ça s'appelle « Condamné à me tuer ».
Quand Marion est décédée, quand elle a mis fin à ses jours, on n'a pas compris. C'était un 13 février, à 13h, à 13 ans. Puis le lendemain, on a découvert que Marion avait laissé une lettre. Cette lettre, elle était pour le collège. Son numéro, numéro 320, Marion Fraisse, 4e C. Si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Vous êtes allé beaucoup trop loin dans cette histoire. Faux cul, sans amis. On va te niquer à ton retour. Bolos, 3 points. Je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Elle dit adieu. Et dans cette lettre, il était inscrit les prénoms des bourreaux. Et là, c'était un second choc parce qu'en fait, les bourreaux, on les connaissait. 4 élèves de sa classe, dont 2 jeunes filles, très proches de Marion, des amies toxiques, voilà, qui avaient une vraie connaissance du tempérament de Marion, de son caractère, de ce qui... Elles savaient ce qui blessait Marion, savaient ce qui pouvait la toucher.
Un extrait du documentaire Souffre-douleur, il se manifeste sur France 2 et c'est Nora Fraisse, la mère de Marion Fraisse, que l'on vient d'entendre. Alors j'aimerais signaler que le tribunal administratif de Versailles a partiellement condamné l'État pour faute après le suicide de Marion Fraisse, des parents qui avaient alerté le principal du collège de Brie-sous-Forges dans l'Essonne et qui demandaient un changement de classe sans succès. Dans sa décision, le tribunal administratif condamne l'absence de réaction appropriée de la part de l'équipe éducative et ils en ont déduit un défaut d'organisation du service public. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Vous êtes conseiller principal d'éducation. Il existe des dispositifs contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Et puis vous formez également, vous CPE, des jeunes, des élèves pour être des référents de harcèlement, c'est ça ?
Oui, alors le titre exact, ce sont les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement. Mmh. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a environ 2 ans. Donc on est, nous, référents vie scolaire, souvent les CPE, et on essaye d'avoir des relais parmi les élèves, non pas des relais qui servent à nous donner les informations, mais au contraire à impulser quelque chose, une prise de conscience parmi les élèves. Hein, c'est pas entre guillemets des balances qui viendraient nous alerter, mais au contraire des gens qui ont pris conscience, qui ont une certaine maturité et qui ont pris conscience grâce à ces formations de ce que c'est que le harcèlement, de toutes les formes de harcèlement possibles. Et faut pas oublier le cyberharcèlement parce que ça c'est quelque chose que l'école a du mal à percevoir, notamment au niveau de tous les réseaux sociaux, puisque on a beau former les élèves. c'est quelque chose qui se passe en dehors de l'école.
Alors,
et donc, ça, c'est vraiment très compliqué à appréhender pour les personnels de l'éducation nationale.
Samuel, vous êtes donc conseiller principal d'éducation. Vous le savez, l'école, c'est d'abord un espace, donc un territoire à contrôler. Et les cours de récréation, les couloirs, les toilettes, les vestiaires, sont des lieux, comme l'écrit Bruno Humbeck dans son ouvrage, des lieux de la vacance du pouvoir où les violences et harcèlements s'épanouissent. Quels sont les outils que vous mettez en œuvre pour justement que ces espaces ne soient pas des espaces de harcèlement et de violence?
Alors là, je suis complètement d'accord avec vous, surtout que malgré les promesses faites par les différents gouvernements, on en est encore à retirer des postes d'assistant d'éducation. J'en suis moi-même victime pour la rentrée prochaine. Donc on me supprime un demi-poste d'assistant d'éducation. Et donc ces gens qui ne sont plus sur le terrain, n'arrivent plus à la fois à donc protéger la communauté des élèves. Et il faut réussir à créer un vivre ensemble, une convivialité, qui va permettre d'avoir des retours, des relais. Et puis, il faut savoir aussi que les conseils de vie collégienne, qui sont un petit peu... c'est tout nouveau, ça va se mettre en place à la rentrée 2017. C'est un peu le pendant du conseil de vie lycéenne,
Bruno Humbeck,
qui existe depuis des années.
En quelques mots, hein, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, outiller les écoles pour qu'on ne mélange pas tout. On régule les territoires, on maîtrise les groupes en construisant avec eux du vivre ensemble, c'est-à-dire des outils de diffusion des normes, et on sanctionne des lois par des rappels de la loi. C'est le principe des dispositifs qu'on met en place en Belgique, c'est ce qui est détaillé dans le bouquin.
Merci beaucoup Samuel de nous avoir appelé. Laszlo, je rappelle que tu es stagiaire chez nous dans Grand Bien Vous Fasse, oui. Tu as été harcelé entre la fin de la quatrième et le début de la troisième. Comment ça s'est terminé en quelques mots? Tu étais harcelé parce que tu avais de l'acné et qu'on se moquait de toi, enfin une harceleuse en particulier. Comment ça s'est terminé?
Ben, j'ai pas osé parler au début, parce que de peur de flatter mon ego, en fait, de titiller mon ego, je me sentais infaillible. Et donc, j'en ai parlé un soir à bout, à ma mère qui m'a dit, je vais appeler la CPE. Je lui disais non, parce que ça va pas être bon. Elle m'a pas écouté. Elle a appelé le lendemain et ça s'est réglé à l'amiable. J'ai dit mes vérités en face et tout s'est bien terminé.
Merci beaucoup Laszlo. Juste Sonia Ferchak, très rapidement, un livre peut-être que vous aviez envie de conseiller, on n'a pas le temps de l'évoquer longuement, mais voilà.
Alors oui, je trouve que le livre, c'est un très bon support de communication entre parents et enfants. Ma réputation de Gaëlle Aymon, c'est l'histoire de Laura qui avait noué une relation privilégiée avec des garçons, trois garçons, jusqu'à ce que l'un d'eux lui demande d'aller plus loin. Elle refuse et il lui fait une réputation de fille facile. Et le lycée va devenir un enfer.
Rappelez le titre.
Ma réputation de Gaëlle Aymon.
Merci beaucoup Bruno Humbeck. Prévention du harcèlement et violence scolaire, c'est publié chez The Book. Merci Sonia Ferchak. L'encycle des filles est publié chez Grund. Tout de suite, là, tout de suite. Julia Foyce, il était une fois dans le web.
Once upon a time.
Il était une fois.
Les engrenages continuent de tourner, ça ne s'arrête jamais.
In the web.
Dans le web.
Et merci Laszlo, évidemment, pour ta première radio sur France Inter. Bonjour Julia Foyce.
Bonjour. Allez, bonjour.
Alors, les réseaux sociaux ont permis une nouvelle forme de violence entre leurs utilisateurs. Après un conflit ou une séparation, il n'est pas rare que des photos intimes soient diffusées sur Internet par celui qui s'estime lésé et qui a très envie de se venger. Ça s'appelle le revenge porn. Et c'est l'histoire repérée par le plus nouvel Obs que vous nous racontez ce matin, Julia Foyce.
C'est l'histoire d'une rupture qui a mal tourné. Pas de sang, mais des larmes, de la haine et du lait avec tout le vacarme que fait le fiel versé. Et pourtant, les débuts étaient bien gentils. Ils se séparent, ils ne s'aiment plus, c'est lui qui part, mais elle non plus n'avait pas envie de continuer. L'histoire durait depuis 18 mois, une éternité à cet âge-là. Les deux ont à peine 20 ans, autant dire qu'ils ont tout le temps pour tomber amoureux encore et désirer encore plus fort. Et d'ailleurs, elle ne tarde pas à se nicher dans d'autres bras. Ah, ça lui ne supporte pas. C'est d'abord un coup de téléphone passé en numéro masqué. On ne peut pas dire que le jeune homme soit d'un courage patenté. Il est agressif, énervé, alors elle lui raccroche au nez. Tant pis, il passera par les mails et même sa boîte professionnelle en sera bien vite inondé. Tous les jours, c'est le même message. Ça suinte la jalousie, la rage. Il éructe, vomit et insulte. C'est du salope et c'est de la pute. Comment tu peux me faire ça à moi? Tous les jours, il pose la question. Il n'y a pas d'âge pour être con, pour croire que l'autre nous appartient, même quand on l'a largué en chemin. Et elle, de l'autre côté de l'écran, elle ne bronche pas. Elle serre les dents, espérant que ça va lui passer, que son silence va l'épuiser. Elle tente bien de se concentrer et elle essaye d'oublier ce bip qui l'a fait sursauter, qui dit qu'un mail est arrivé. Ne pas l'ouvrir, ne pas regarder. regarder, ne pas lire et ne pas pleurer, ne pas sentir son ventre se nouer et surtout ne pas prendre peur quand l'ex menace de se venger. Surtout ne pas croire ce loser quand il dit qu'il va diffuser à ses proches comme à son bureau. Et sur tous les réseaux sociaux, toutes les photos, les vidéos qu'il a d'elle bien gardées au chaud. Ses souvenirs d'une intimité, ses caresses qu'ils ont partagées. Elle n'était pas très habillée et a priori lui non plus, sauf que lui tenait l'appareil. Alors c'est elle qui se retrouve nue. Elle l'aimait, elle avait confiance et c'est donc en toute innocence qu'elle s'est offerte, qu'elle a posé. Elle avait même bien aimé, sauf que maintenant, elle va payer pour un crime aussi millénaire qu'il est bien sûr imaginaire. Une femme qui aurait du plaisir et peut-être même du désir, mais ça va pas. Non, quelle sorcière qu'elle aille donc brûler en enfer. Et dans l'enfer 2.0, on crame même en accéléré, tout va très vite, c'est une traînée de poudre qui va inonder les boîtes mail de tous ses amis, tous ses proches qui vont pénétrer sa plus secrète intimité sans même l'avoir demandé. Et c'est son père, le premier, qui a l'honneur d'être ciblé, de voir sa fille sur ses photos, c'est un cauchemar, fait froid dans le dos. Il faut aller voir la police, il faut que cesse ce supplice, la jeune femme ne veut rien savoir, elle a trop honte, toute cette histoire, c'est sûr, va retomber sur elle, on va lui demander ce qu'elle est allée foutre dans cette galère, on va lui demander pourquoi ces clichés, pourquoi faire. Le père insiste, il met des mots, il dit qu'envoyer ces photos, ça ne se fait pas, que c'est même puni par la loi, que ça s'appelle du harcèlement, c'est un délit absolument. Elle est victime et pas coupable, il faut qu'alors elle soit capable de se défendre, de le stopper et même de lui faire regretter. Elle finit par être d'accord et se rend au commissariat, c'est d'une toute petite voix qu'elle doit raconter son histoire à un inconnu qui l'ignore. Une plainte pour ça ? Et quoi encore ? Vous avez de la chance, jeune fille, ça n'est pas grave, c'est des broutilles. S'il n'y a pas d'atteinte physique, alors il n'y a pas de poursuite. Une main courante, à la limite, voilà tous ceux qu'accepte le flic. Hors de question de se laisser faire, tempête le père, rouge de colère. Il prend alors son téléphone et décide d'appeler le jeune homme. Il le menace, il lui fait peur. Il lui dit que les flics sont avertis, qu'il ferait mieux de se faire tout petit. Faut croire que ça lui a suffi. Les photos ont cessé de tourner et plus aucun mail envoyé. Simplement depuis, tous les ans, elle reçoit sur son compte Twitter le même message d'un inconnu, ce quelqu'un qu'elle a bien connu. Il lui écrit « Tu te souviens de moi ? J'espère que tu ne m'oublies pas. »
Merci Julia Foy. S'il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis dans Grand Bien vous fasse. Demain, on se demande ce qu'est l'orgasme féminin en partenariat avec Ça m'intéresse. Nous attendons toutes vos questions. Grand Bien vous fasse à radiofrance.com. Tout de suite, la bande originale avec Nagui.
Grand Bien vous fasse avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes.